Les capsules du patrimoine. Bonjour. Les capsules du temps sont des objets enfouis dans la terre à destination des générations futures. Elles laissent une trace qui renseigne sur une époque. L'émission Les capsules du patrimoine déchiffre une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va. L'équipe du service inventaire du Pays Midi-Quercy vous fait part de ce qu'elle a découvert par le biais de ses recherches. Aujourd'hui, avec Léa Gérardin-Macario, archéologue du bâti. Bonjour Léa.
Bonjour. Aujourd'hui, nos recherches archéologiques nous emmènent à la Maison des Loups, à Quélus, toujours dans le cadre d'une opération d'archéologie programmée, autorisée par le service régional de l'archéologie. Éric Chabanne, doctorant à l'université de Toulouse Jean Jaurès, va nous présenter tout à l'heure les fouilles réalisées au rez-de-chaussée. Le service de l'inventaire du patrimoine participe à cette actualité de la recherche et vous propose de découvrir plus en détail cette maison exceptionnelle. Construite au bas de la rue droite à Quélus, presque face à l'église, elle se distingue de ses voisines par sa haute façade en pierre de taille qui comporte de nombreuses sculptures. Cette maison médiévale du XIVe siècle présente tout d'abord une organisation très classique, assez facile à restituer malgré les bouleversements des XVIIIe et XIXe siècles. De grandes arcades de boutiques au rez-de-chaussée, sans doute surmontées par un entresol éclairé par des petits fenestrons, constituent le premier niveau à vocation artisanale ou commerciale. Le deuxième niveau était ouvert par de belles baies géminées, c'est-à-dire des baies jumelles, surmontées de remplages. Ce sont des décors qu'on pourrait appeler gothiques, que l'on observe par exemple dans les grandes baies des églises. Un dernier niveau, peut-être sous charpente, formait le pignon. C'est la partie de la façade qui est triangulaire, formée par les deux pentes du toit, d'où vient l'expression par exemple « avoir pignon sur rue ». Ce niveau était ouvert par une baie géminée plus simple. L'originalité de cette maison vient de tous les éléments sculptés de la façade, des têtes de petits personnages, des animaux couchés et surtout des animaux en forte saillie sur la rue. On a voulu y voir des loups, mais c'est en réalité un bestiaire plus varié qui est exposé ici. Il semble y avoir aussi un cochon, une vache et peut-être même un lion. À l'intérieur, les travaux de rénovation ont révélé un enduit-peint, c'est-à-dire une peinture murale, qui était cachée derrière une cloison en plâtre. On semble pouvoir distinguer sur cet enduit deux arbres aux branches minces qui montent et retombent autour du tronc. Les feuilles lancéolées, c'est-à-dire en forme de fer de lance pointue, sont bien dessinées au pinceau et on aperçoit de gros fruits jaunes, peut-être des oranges. Ce décor pourrait dater du XIVe siècle, qui est la phase de construction de la maison, et constitue la découverte inédite de cette année 2022. Des fleurs rouges ont été ajoutées au pochoir dans un second temps, peut-être à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, lorsque la mode du décor de l'intérieur change. La Maison des Loups a donc encore bien des secrets à nous révéler. Nous avons du pain sur la planche pour comprendre qui a pu commander une telle maison au Moyen-Âge. La prochaine fois que vous irez visiter Quélus, armez-vous donc de vos jumelles et tentez de reconnaître toute cette drôle de faune qui peuple la façade et peut-être en résoudre le mystère.
Donc là, c'est le service inventaire du patrimoine qui est en partenariat avec l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et Éric Chabanne s'est porté volontaire pour réaliser ce sondage car il a effectué son master de recherche en archéologie médiévale sur Quélus, ce quartier en particulier de Quélus. Et il est maintenant en doctorat d'archéologie médiévale à toujours l'Université Toulouse Jean Jaurès, notamment sur Quélus, mais aussi sur d'autres ville du Quercy et du Rouergue, si je ne me trompe pas. L'opportunité de pouvoir fouiller à Quélus était trop belle, donc il en a profité pour, pour s'associer à nous et réaliser ce sondage. Il va vous présenter lui-même ses travaux de recherche à Quélus aujourd'hui.
Bonjour, je réalise un sondage archéologique dans la Maison des Loups, comme vient de le dire Léa. Et il se trouve dans la continuité de mon travail de master. J'ai réalisé une étude des transformations de la ville de Quélus depuis le Moyen-Âge et jusqu'à, grosso modo, jusqu'au XIXe siècle. Plus spécifiquement, j'ai travaillé sur la transformation du quartier où on se trouve aujourd'hui, qu'on appelle le quartier de la Saliège, et qui va environ de la place de la mairie jusqu'à la sortie de la ville au nord-est, et qui s'étend le long de la rue droite et de la rue du Long. Ce quartier a été aménagé à partir du XIIIe siècle, lorsque la ville se développe, à l'initiative du comte de Toulouse. Voilà, le quartier est aménagé en îlots en forme de lanières qui sont orientées nord-sud et séparées par des ruelles. On a l'impression, quand on observe les sources et quand on observe le bâti, que le quartier est d'abord loti, qu'on trace des lotissements, et que petit à petit, au cours du XIIIe, du XIVe et du XVe siècle, des maisons sont aménagées à cet emplacement. Et l'opportunité de travailler sur la Maison des Loups est assez exceptionnelle, puisque c'est la maison la plus impressionnante en termes de bâti, en termes de décor de ce quartier.
Quand vous dites que vous avez travaillé un petit peu partout, vous avez creusé des trous partout dans Gaylus ?
Non, pas du tout. Je n'ai pas eu la possibilité en master de fouiller. J'ai réalisé donc mes études en archéologie du bâti, c'est-à-dire que j'ai fait des relevés de façade et j'ai observé dans les maçonneries ce qu'on pouvait voir dans l'évolution du bâti. Voilà.
Alors là, on est en train de parler, donc on est dans la Maison des Loups, il y a un espèce d'énorme tas de terre à côté là, donc je dirais quoi, un mètre cube facile, un peu plus même.
Oui, à peu près.
C'est quelque chose que vous avez donc déblayé du sol, vous avez actuellement 10 cm de boue sous les chaussures, vous êtes dans un gros trou, il y a plein de cailloux. Alors, avant de parler de tout ça, vous parliez d'archéologie du bâti. Et donc vous travaillez à partir de relevés ?
Alors oui, effectivement, on creuse des trous, il y a beaucoup de sédiments qui est dans ce gros sac à côté de la fouille, mais le but premier de l'archéologue, c'est de récupérer des données et de comprendre ce qu'il a fouillé en réalité. Et c'est pourquoi on fait ça de manière méthodique, et on récupère au fur et à mesure les données de ce qu'on a trouvé dans les couches, de la manière dont elles sont construites, de la chronologie. On enregistre tout ça sur des carnets, sur des fiches spécifiques, et on réalise des relevés, c'est-à-dire des dessins, qui restituent les aménagements qu'on a trouvés, que ce soit sur des éléments bâtis ou des éléments uniquement visibles en fouille, puisque pour éviter d'embêter les propriétaires, on ne laisse pas cet énorme sac de terre en plein milieu de la boutique. À la fin de la semaine, on va reboucher ce trou, et ils pourront continuer à vivre dans leur maison. Et ça signifie qu'effectivement, à la fin de la semaine, tout ce qui a été découvert là ne sera plus visible par les personnes qui passent dans la Maison des Loups, et que moi, à la fin de cette étude-là, j'aurai un rapport à rendre au service régional de l'archéologie, qui est le garant scientifique et technique du bon déroulement de l'opération.
C'est la première fois qu'il y a des fouilles à Cailus ?
Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des fouilles à Cailus, puisque des sondages avaient été réalisés au château de Cailus, mais c'était il n'y a pas très très longtemps, donc on va dire que ça fait quelques années qu'on s'intéresse au sous-sol de Cailus, et nous, c'est par contre la première fois qu'on fait des fouilles dans des maisons de Cailus, là autour de la rue droite, des fouilles dont les résultats seront rendus publics, puisque les rapports que l'on va rendre au service régional de l'archéologie, mais aussi les données que l'on va renseigner dans les notices de l'inventaire du patrimoine, qui seront tous ces éléments seront consultables par le public, aussi bien à la DRAC à Toulouse, la Direction régionale des affaires culturelles à Toulouse pour le rapport, ou les notices d'inventaire en ligne sur Internet. L'objectif de ce type d'intervention est de pouvoir toujours retransmettre les connaissances au public, puisque c'est ça qui fait vivre la science, c'est de pouvoir la communiquer au public et aux autres chercheurs, évidemment, puisque on pourra ensuite échanger avec les autres chercheurs, comparer nos chantiers, nos résultats et faire petit à petit progresser la recherche de cette façon-là.
On est donc à la Maison des Loups de Cailus, dans la rue droite, au fond d'un trou. Qu'est-ce que vous cherchez ?
Alors, en réalisant les premiers nettoyages, je suis tombé sur un gros mur, une grosse maçonnerie de 80 cm de large à peu près. Et la question qui se pose principalement, c'est qu'est-ce que c'est que ce mur ? Est-ce que c'est un support pour quelque chose ? Est-ce que c'est un départ d'escalier ? Est-ce que c'est une ancienne cloison ? Et voilà, le but, c'est donc de descendre un petit peu pour regarder comment ce mur est connecté avec le reste de la maison et pour essayer de caractériser les couches archéologiques qui sont liées à ce mur.
Ça fait partie du travail d'archéologue, de chercher sans savoir ce qu'on cherche.
Oui, tout à fait. En général, on a l'habitude de dire que quand on fouille, on repart avec plus de questions que de réponses. Donc là, clairement, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Je trouve beaucoup de choses. Il y a quelques éléments de réponse, mais il y a énormément de choses encore à creuser. Et voilà, il faudra multiplier les opérations d'Ankelus pour arriver à comprendre davantage tout ça.
Est-ce qu'il y a du mobilier ici ?
Alors, il y a très peu de mobilier dans ce sondage-là. On a un petit peu de céramique, un petit peu d'ossement, un petit peu de métal. Mais voilà, ça reste assez faible en termes de quantité de mobilier.
Comparé à la quantité de terre que vous avez soulevée. Comme matériel, là, je vois plutôt une grosse pioche derrière.
Oui, c'est ça. En général, en archéologie médiévale, on fouille avec des outils qui sont quand même assez gros. On est loin du cliché qui correspond plus aux préhistoriens qui sont avec leurs petits outils de dentiste. Voilà, quand on fouille du médiéval, en général, on est avec une pioche, une pelle. Si on a la place, une pelle mécanique, dans certains cas. Et sinon, pour tout ce qui est un petit peu fin, on est à la truelle.
En tant que doctorant à l'université, est-ce qu'on va retrouver les travaux que vous avez effectués à la Maison des Loups de Caylus dans votre thèse, qui sera probablement, certainement publiée, et qu'on pourra récupérer ?
Alors oui, effectivement, il va y avoir les résultats qui vont en faire partie, mais pas uniquement, je ne travaille pas uniquement sur la Maison des Loups et sur Caylus. Dans le cadre de ma thèse, je travaille sur les transformations et les dynamiques d'un certain nombre de petites villes de la région, comme Montricou, comme Puy-la-Roque, comme Sept-Fonds, comme Caussade. Et j'étudie à partir des vestiges bâtis, de ce qu'on a trouvé en fouille et des archives, j'étudie les transformations de ces villes au cours du temps.
Retour dans les capsules du patrimoine. On est toujours en train de parler archéologie. On était dans le sous-sol de la Maison des Loups à Caylus. Là, on est dans la maison d'en face, dans la rue droite, où des fouilles ont été menées par notamment Léa Gérardin, le service inventaire du pays Midi-Quercy. Moi, je me suis demandé, si je creuse dans ma cave, est-ce que j'ai des chances de tomber sur des choses aussi magnifiques que ce qu'on a sous les yeux ?
Alors, potentiellement, oui. Surtout, la question, c'est est-ce que j'ai vraiment le droit de creuser dans ma cave ? La réponse est pas vraiment. En fait, le sous-sol ne nous appartient pas entièrement, même quand on est propriétaire de sa parcelle, que ce soit dans la maison ou dans le jardin, puisque le sous-sol est protégé par l'État et surveillé par le service régional de l'archéologie, qui dépend de la DRAC, donc pour nous en région Occitanie. Il existe en fait des zonages archéologiques sur toute la France, hein, c'est pas propre à la région Occitanie, et ce service de l'État, qui dépend du ministère de la Culture, connaît bien ces zonages, les met à jour régulièrement et est en capacité de cibler les zones où il y a un plus fort potentiel archéologique. Donc, théoriquement, quand on fait des travaux déclarés, c'est-à-dire qu'on va déposer notre déclaration de travaux en mairie, cette déclaration remonte en préfecture, elle est ensuite transmise justement au service régional de l'archéologie qui pourra dire attention, zone archéologique ou non. Alors ça, c'est pour les travaux déclarés. Par exemple, je veux creuser une piscine dans mon jardin, j'achète un terrain à bâtir, je veux bâtir une maison neuve sur ce terrain à bâtir. Donc, le service régional de l'archéologie l'archéologie est en capacité de dire attention, ici, zone archéologique, vous êtes obligé de faire réaliser des fouilles d'archéologie préventive avant votre aménagement, qui pour les particuliers, dans ces cas-là, sont aidés par un Fonds national de l'archéologie préventive pour la prise en charge financière de la fouille. Donc ça, c'est le cadre de l'archéologie préventive, qui est vraiment bien encadré par un dépôt de permis de construire. Quand on est dans sa cave ou dans son jardin, et par exemple à Noël, on s'est fait offrir un détecteur à métaux, il faut savoir que c'est tout aussi encadré par la loi, même si ce n'est pas l'archéologie préventive. Le sous-sol ne nous appartient pas entièrement. Si on veut faire de la détection avec un détecteur à métaux, il faut en informer la préfecture aussi, et elle donnera son accord. Et ensuite, si on trouve quelque chose dans sa cave ou dans son rez-de-chaussée ou dans son jardin quand on creuse, il faut en informer. Donc la mairie, parfois c'est le premier interlocuteur qui pourra nous aider, ou directement le service régional de l'archéologie à la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, à Toulouse, qui pourra nous aider aussi, et éventuellement faire venir un archéologue pour faire des observations dans la maison qu'on est en train de réaménager.
C'est ce qui s'est passé notamment à la maison des loups. Vous êtes intervenu en tant qu'archéologue sur demande des propriétaires.
Oui, exactement. Les propriétaires avaient décidé éventuellement de faire des travaux, et ils ont demandé si c'était possible que des archéologues viennent observer ce qu'il y avait dans le sous-sol, puisque comme c'est une maison assez ancienne, il y avait forcément des choses à découvrir.
Et donc, vous avez l'obligation de fouiller, faire un rapport, mettre en place des relevés très précis, les publier et rendre le tout accessible. Le but, c'est la recherche, c'est faire avancer la science. Vous êtes tous les deux archéologues. L'archéologie, on se forme comment ? Est-ce que moi, par exemple, je reviens toujours, pardon, à ma propre petite histoire personnelle, quand je suis dans mon jardin et que machinalement, je gratouille et que je tombe sur un tesson de quelque chose, je peux me dire, c'est une assiette, mais probablement que l'assiette... Peut-être que l'assiette date du 18e, je ne sais pas. Comment on se forme ? Est-ce qu'on peut avoir des pistes quelque part sans devenir un archéologue comme vous ? D'ailleurs, la deuxième question, ce sera, c'est quoi le parcours pour être archéologue ? Comment est-ce qu'on peut se renseigner un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'on vient de déterrer ?
Alors là, sur le territoire, il y a la chance d'avoir le service de l'inventaire du patrimoine qui peut être un premier interlocuteur, même si on n'est pas forcément compétent pour tout. On pourra aider les particuliers s'ils ont des interrogations de choses qu'ils trouvent dans leur jardin ou dans leur maison. Et après, sinon, le service régional de l'archéologie, encore une fois, qui pourra répondre à ces questions-là, même si, évidemment, ils sont parfois un petit peu moins disponibles parce qu'ils ont des plus grandes aires géographiques à gérer. Mais il ne faut pas hésiter, oui, à contacter. Et puis sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mairie, parfois, le maire, en tout cas, c'est sûr, tous les maires du PETR Midi-Quercy ont connaissance de la mission de service inventaire et pourront relayer les questionnements au service de l'inventaire.
Alors, je parlais de tesson parce qu'en fait, vous en avez trouvé un dans le 28 rue droite à Quiélus. Pour autant, on a devant nous un archéologue du bâti. Non, moyenne, mon âge. Il y a plein de façons d'être archéologue différent. D'ailleurs, Léa, je ne sais même pas votre spécialité.
Moi, je suis aussi archéologue du bâti, médiéviste sur le Moyen Âge. Et après, oui, en effet, il y a plein d'autres spécialités. On peut être archéologue, on dit archéologue sédimentaire pour ceux qui ne font que de la fouille en aire ouverte, sans avoir le bâtiment entièrement en élévation associée. Et après, au sein de l'archéologie, il y a énormément de spécialités, donc par période, les périodes préhistoriques, les périodes proto-historiques, et après ce qu'on appelle les périodes historiques, c'est-à-dire l'Antiquité, gallo-romaine, romaine, le Moyen-Âge, qui est un une très très longue très très longue période chronologique qui est en fait découpée en sous-périodes avec des, du coup des spécialistes pour chaque sous-période. La période moderne qui est un petit peu qui commence à être... alors en fait, les périodes, ce qu'on appelle nous les périodes modernes et contemporaines. Donc moderne, c'est, ça équivaut, pour faire très très vite, de François Ier à Louis XVI. Et la période contemporaine, après la Révolution, jusqu'à, théoriquement jusqu'à nos jours. En archéologie, en gros, on va jusque... Alors, en métropole, on s'arrête à la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'on fouille maintenant même la Deuxième Guerre mondiale. Dans les Outre-mer, on fouille jusque dans les années 60, des 1960, des installations. Voilà, donc à chaque période, son spécialiste. Ensuite, il y a aussi des spécialistes sur des questions beaucoup plus précises, comme la céramologie, donc l'étude des objets en céramique, l'archéozoologie, l'étude des ossements animaux, les anthracologues qui étudient les charbons, les palynologues qui étudient les pollens en contexte archéologique, les carpologues qui étudient les graines en contexte archéologique. On va en oublier, on va faire
les toïcographologues qui étudient les enduits peints.
Oui, exactement, tout à fait.
Bon, ça, les dendrochronologues.
Les dendrochronologues, exactement, qui étudient les bois. Bon, on va en trouver plein, des hologues.
Les anthropologues aussi, pour les ossements les humains, les sépultures en particulier.
Et alors, la différence entre paléontologue et archéologue, il y a une frontière dans
oui.
le temps?
Oui, tout à fait, parce que le paléontologue ne s'intéresse qu'aux dinosaures et l'archéologue ne s'intéresse qu'aux périodes anthropisées, c'est-à-dire lorsque l'homme était sur Terre et a commencé à modifier son environnement. Et voilà, c'est la différence entre l'archéologue et le paléontologue. Le paléontologue, lui, ne va s'intéresser qu'aux périodes du Jurassique, donc avant l'homme.
Du coup, vous avez tous bac plus 10, c'est des problèmes de dos à force d'être en train de gratter la Terre.
Alors pour les problèmes de dos, oui, tout à fait. Et bac plus 10, non, pas forcément, puisque on peut déjà, si on veut pratiquer l'archéologie, on peut se rapprocher d'archéologues qui fouillent déjà, et en tant qu'amateur, en tant que bénévole, aller sur des sites archéologiques pour découvrir ce que c'est de fouiller, de toucher la terre, de pratiquer ce métier. Et derrière, oui, si on veut en faire notre métier, on doit passer par un cursus universitaire. Donc on peut pratiquer l'archéologie à partir d'un niveau théoriquement licence, niveau master préféré. Et après, on peut pousser jusqu'au doctorat si on veut faire de la recherche notre métier.
Donc la prochaine fois que vous aurez une maison à construire et que vous retrouverez la petite ligne de l'impôt sur l'archéologie dans votre déclaration d'impôt, vous saurez que c'est nous, ce fameux impôt casseur-payeur, c'est les archéologues qui demandent un financement pour leurs travaux, mais voilà, c'est vraiment, vraiment pas énorme et ça fait vraiment avancer la science, donc merci à vous.
Les capsules du patrimoine, une émission depuis le pays Midi-Quercy, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr avec le soutien du programme européen Leader, la région Occitanie et le département du Tarn-et-Garonne.